J'ai été bien sûr étonné, comme tout le monde, mais je me dis, attendons voir, espérons que ça va se passer comme il dit. Il est important qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Il est important qu'un président qui termine son mandat sache partir. Et je le dis pas seulement pour le Burundi, mais je le dis aussi dans d'autres pays. Il y a des pays où les chefs d'État font 10, 15, 20, 25, 30 ans. Pour moi, c'est pas normal.
Est-ce que vous croyez que son annonce est crédible?
Je n'en sais rien. Il a dit, voilà. Moi, je préfère croire ce qu'il a dit. Hein. Le reste, comme je ne suis pas magicien, on verra. Je ne peux pas lire dans la pensée des gens. Mais j'ose espérer que ce qu'il dit, c'est vrai. Et que surtout, il y ait la paix au Burundi. Hein. En fait, un président, c'est un poste. Mais ce qui est important, c'est la paix, c'est la stabilité. Donc, qu'il y ait un changement, qu'il y ait un président élu démocratiquement, dans une élection crédible, dans une élection qui respecte les standards internationaux, c'est ça qui est important. À la limite, le reste, c'est pas important. Il faut respecter les règles, le respect des règles. C'est ça qui nous manque en Afrique et dans beaucoup de pays.
Quelles sont les raisons, à votre avis, pour lesquelles il a annoncé sa non-candidature après 2020 ?
Probablement que la pression était devenue très forte, je pense. Tout simplement, il est fatigué. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui trop se focaliser sur l'annonce. Il faut qu'on regarde plutôt qu'est-ce qui nous attend demain au Burundi. Pour que les Burundais aient la paix, pour qu'il y ait la liberté, pour que les gens puissent s'exprimer. Moi, je ne voudrais pas tellement m'attacher sur cet homme, parce que c'est un homme, c'est un président. Il passe, mais les institutions restent et le Burundi reste. On est tous de passage sur cette terre. J'ai envie de voir plus loin, un pays apaisé, un pays où les élections se passent tranquillement, un pays qui est très beau, le Burundi est très beau, et nous avons tout pour réussir. Nous avons un pays qui a un bon climat, où on peut faire au moins 3 récoltes par an. Les Burundais n'ont pas le droit d'avoir la faim. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 400 000 réfugiés. Pourquoi ? Les gens ont envie de rentrer. Moi, j'ai envie de rentrer dans mon pays, de travailler comme journaliste dans mon pays, de faire le métier que j'aime avec mes collègues restés au Burundi.
L'Union européenne a pris des sanctions contre le régime à cause de l'évolution politique des dernières années. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen efficace et souhaitable ?
Efficace, je ne sais pas. Mais je pense que, de leur côté, ils ont des standards, ils ont des règles qui ne peuvent pas passer outre les accords de Cotonou, comme ils disent. Et apparemment, le Burundi ne rentre plus dans ces accords-là. Quant à l'efficacité, j'ai des doutes. Et surtout que les sanctions frappent les plus faibles aussi, le petit peuple. Je ne crois pas que les membres de l'élite, personnellement, soit touché par les sanctions.
Vous avez dit pendant l'atelier que c'est une bonne nouvelle en quelque sorte que ce ne soit pas un conflit qui soit devenu ethnique. Comment est-ce que vous voyez notamment la réforme constitutionnelle qui a notamment revu les règles sur les quotas entre Hutu et Tutsi notamment, et sur les règles pour prendre les décisions au Parlement qui jusqu'ici donnait en quelque sorte un droit de veto à la minorité Tutsi. Comment est-ce que vous voyez l'intention qui était derrière cette réforme constitutionnelle de ce point de vue-là? Est-ce que c'était à voir comme une tentative d'ethniciser la politique au Burundi?
Vous savez, les textes juridiques, on peut les utiliser à son avantage. Ça, c'est en fait. Par contre, ce que je dis, moi, est une chose dans laquelle je crois, c'est que les Burundais, aujourd'hui, étaient en train de dépasser, sinon avait même déjà dépassé les clivages ethniques. Aujourd'hui, si vous regardez parmi les opposants à Nkurunziza, les plus nombreux sont les Hutus. Le leadership de la contestation, il est détenu par qui? C'est pas par un Tutsi, c'est pas un Hutu. Aujourd'hui, quand vous regardez au niveau des principaux opposants, ce sont les anciens compagnons d'armes de Pierre Nkurunziza, du président Nkurunziza. Ça signifie que ce n'est pas un conflit ethnique, que c'est un conflit plutôt politique, un problème de lutte pour le pouvoir. En soi, je dis, c'est une bonne nouvelle que ce ne soit pas un problème entre les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, parmi ceux qui contestent le président Nkurunziza, il y a des Hutus, il y a des Tutsis. Parmi les soutiens, il faut le dire, au président Nkurunziza, il y a aussi des Tutsis. C'est en cela que je dis que c'est une bonne nouvelle. Quant au changement par rapport à la Constitution, bon, la Constitution, les Burundais, ils ont voté pour son changement. Est-ce que c'était dans le respect de tous les standards, de tous les... Est-ce que c'était le moment d'abord? Est-ce que c'était ça la priorité? Ça, c'est une autre question. Mais je pense que ce qui peut être dangereux, c'est que les balises, les mécanismes qui avaient été faits par les pères de l'accord d'Arusha, notamment Mandela, ont sauté. Donc, on peut entrer dans une phase très délicate. Et vous savez que l'exclusion provoque toujours des réactions qui peuvent aller dans un sens qui n'est pas très bon pour le pays, c'est-à-dire la violence. C'est un risque.
Quelle est la situation actuelle maintenant après le référendum constitutionnel qui était une période de grande tension? Est-ce que le pays est en train de s'apaiser? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on sait s'il y a des réfugiés qui rentrent au pays entre-temps ou est-ce que la situation reste encore plus tendue?
D'apparence, le pays semble calme. Mais quand vous discutez avec les Burundais, la peur est toujours là. Parce que malgré tout, il y a encore des arrestations. Il y a encore des gens qui disparaissent. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Est-ce que c'est plus comme avant parce qu'il n'y a plus? Ou bien parce que ce n'est plus fait de manière grotesque, que c'est fait de manière moins visible? Non. La peur est encore là, mais surtout, je pense que les Burundais sont fatigués. N'oubliez pas que quand même le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde, qui tenait grâce à l'appui de l'aide internationale et qui a été suspendu par plusieurs donateurs, dont l'Union européenne. Et ça, qu'on le dise ou pas, ça se répercute sur l'économie. Ça se répercute sur l'absence de certains produits, ça se répercute sur le chômage, ça se répercute sur l'absence de projets ou la fermeture de projets de développement qui étaient soutenus par l'Union européenne, soutenus par des donateurs, des partenaires. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez quand même un pays aujourd'hui qui se porte très mal, hein, même si nous avons l'apparence d'un certain calme. Quand vous entrez en profondeur, quand vous discutez avec les gens, vous sentez vraiment qu'il y a une certaine peur, un découragement. Regardez un peu le taux des visites des touristes vers le Burundi. Quand vous le comparez avec les autres pays de l'East African Community, ça dit ce que ça dit. Ça montre que ce n'est pas un pays où les investisseurs se précipitent, malheureusement. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir. C'est un pays qui peut aussi se réveiller très vite. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette confiance, c'est la fin de la peur. Hein. Que tous ces réfugiés rentrent, que tous ces opposants, aujourd'hui exilés dans les pays voisins, ailleurs, partout ils se trouvent, qu'ils rentrent, que tout ce monde-là rentre pour construire ce beau pays. C'est ça mon souhait, c'est ça mon message.
Comment est-ce que vous expliquez le fait que le oui l'ait emporté aussi massivement au référendum constitutionnel? Est-ce que c'est dû à la manipulation du vote et à la peur des gens? Ou est-ce qu'il y a quand même au fond une grande part de la population qui soutient Nkurunziza?
Là, il faudrait qu'il y ait un sondage sérieux, professionnel, pour savoir exactement comment les gens ont voté, dans quel état d'esprit ils étaient. Il est clair qu'il y a des gens qui ont voté oui. Mais il est clair aussi que dans un pays où les médias publics sont contrôlés par le pouvoir, dans un pays où les gens ont peur quand même de montrer leurs convictions profondes, dans la mesure où, par exemple, l'État, c'est le principal employeur. Malgré tout, il y a eu plus de 20% qui ont voté contre. Dans ce sens, là, c'est un échec. Parce que autrement, il y aurait eu 90-95%. Donc 20% dans les conditions que l'on sait. En tout cas, ce n'est pas une victoire.
Vous aviez parlé de l'utilisation de WhatsApp, justement du fait de la répression contre les médias, que WhatsApp est entre-temps devenu une sorte de nouveau canal pour les médias au Burundi. Est-ce que vous pourriez expliquer comment ça se passe et comment vous l'utilisez, vous en particulier à Iwachu ?
Je dis que, pas seulement WhatsApp, Internet et les réseaux sociaux, dans des régimes où les médias ne sont pas libres, c'est un canal d'expression. Je dirais même plus loin, c'est un exutoire. Les gens se lâchent sur les réseaux sociaux, se lâchent sur les réseaux WhatsApp. Donc, d'une part, moi je salue l'existence de ces canaux d'expression, vu que les autres canaux sont aujourd'hui problématiques, mais ça ne remplacera jamais, bien sûr, les médias classiques, un bon journal, une bonne radio avec une adresse, avec des journalistes qui signent leurs papiers. Ça, c'est mon rêve. C'est, en tant que journaliste professionnel, c'est ça que je veux. Mais dans un pays qui se ferme, dans un pays où les médias ont des soucis pour survivre, comprenez que les gens tentent de survivre en s'informant autrement. C'est ainsi qu'il y a des groupes WhatsApp où les gens s'échangent des informations. C'est ainsi que des journalistes exilés à l'étranger ont lancé des radios qui envoient des podcasts via WhatsApp. Pour moi, ce n'est pas l'idéal, mais je veux ça plutôt que le blackout, plutôt que le silence. Je préfère un journal sur WhatsApp que rien. Donc, Internet, Twitter, Facebook fleurissent au Burundi. Mais je comprends. C'est normal. C'est la réaction normale d'un peuple qui avait déjà goûté aux joies de la liberté d'expression avec plusieurs radios, avec un certain pluralisme. Je ne suis pas en train de dire que les médias n'ont pas eu des torts, des fautes. Non, mais il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au Burundi. Il y avait un espoir qui a été brûlé en mai 2015 avec la destruction des radios indépendantes.